Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 16 novembre 95.
Une petite question autour de l'autonomie. Ça suscite des réflexions, c'est très bien, du reste il le faut. De même qu'on distingue l'autonomie morale au niveau des vertus, de l'autonomie affective, au niveau de l'amour d'amitié, serait-il possible de parler d'une autonomie métaphysique pour celui qui recherche la vérité à un niveau métaphysique, même s'il n'a pas encore découvert explicitement l'être premier qui finalise sa recherche? Celui qui se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» ne découvre-t-il pas une autonomie supérieure à l'autonomie qui donne l'amour d'amitié, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une autonomie que donne la sagesse? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, on creuse, c'est très vrai. Il y a l'autonomie métaphysique qui provient de l'âme, de notre âme spirituelle. Même si nous n'avons pas encore découvert d'où vient l'âme, la philosophie du vivant qui ne me fait pas découvrir l'existence de Dieu me fait découvrir l'âme comme source d'autonomie dans l'ordre de l'être. Alors ça, il faut bien comprendre cela. Donc vous voyez, c'est bien. Nous ajoutons, et c'est très bien de le faire, bien que vous découvriez comme ça, progressivement, nous ajoutons après l'autonomie morale, prudentielle, parce que c'est très important de comprendre cela, les vertus structurent notre être, il faut bien se rappeler ça, c'est un habitus les vertus, donc ça structure. Quelqu'un qui n'a pas de vertu n'a pas de tenue. Vous voyez, ça fait tenir les choses. C'est pas l'amitié. L'amitié a besoin des vertus. Il n'y a pas d'amitié réelle sans vertu. On tombe dans la déliquescence autrement, vous voyez. Le point de vue, qu'est-ce qui fortifie la volonté et qui permet à la volonté d'être efficace et de tenir bon? C'est la vertu de force. Quelqu'un qui n'a pas de force, qui, dès qu'il y a une résistance, dégringole par terre, il n'est pas une personne. Et alors, il faut bien comprendre, hein, la moralisation, c'est quelque chose qui fait qu'on ne voit plus que l'aspect moral. Mais il ne faut surtout pas négliger la structure morale, éthique des vertus. Ça, je crois que c'est très très important. Ouais, c'est ça qui donne, c'est ça qui permet le dépassement du point de vue psychologique. Si vous n'avez pas de vertu, vous retombez dans le point de vue psychologique. Donc les sentiments du moi. Tandis qu'au contraire, si vous avez compris que les vertus sont des déterminations acquises, mais internes, ce sont des habitus. Et l'habitus veut dire quelque chose qui vient déterminer de l'intérieur ma faculté, ma puissance volontaire, intelligence, et jusque dans les passions. Alors vous savez bien, ces deux aspects, la prudence et la prudence qui va jusqu'à la prudence politique, qui me fait atteindre le bien commun, avoir le sens du bien commun, relève de la personne au niveau politique, au niveau familial. Et puis alors, le dépassement avec l'amour d'amitié. Et puis, je creuse. que si elle subsiste par elle-même, elle a l'autonomie dans l'ordre de l'être. Mon âme a l'autonomie dans l'ordre de l'être. Donc, il y a le katoto. C'est le katoto, le percé, hein, le katoto. Au niveau de l'essai. L'autonomie dans l'ordre de l'être, c'est bien l'âme qui me donne cette autonomie au niveau de l'être. Ça, c'est l'autonomie métaphysique. J'ai une autonomie métaphysique, en ce sens que mon être, mon je suis, a cette autonomie par rapport à tous les autres je suis. Ce que je vous disais, mon être est indépendant de tous les autres. De tous les autres animaux que je côtoie, j'ai mon autonomie dans l'ordre de l'être par mon âme spirituelle, et c'est mon âme en tant qu'elle informe mon corps et en tant qu'elle a un ordre nécessaire, percéité vis-à-vis de l'essai. Et c'est cette autonomie de mon âme qui me permet, par rapport à tous les autres, toutes les autres réalités, de comprendre cette expérience métaphysique de mon autonomie dans l'ordre de l'être. En expérimentant mon « je suis », je m'expérimente comme distincte de toutes les autres personnes et comme ayant en moi-même une autonomie personnelle. Donc là, je suis tout à fait d'accord. C'est une autonomie métaphysique qui prendra toute sa signification lorsque je découvrirai l'existence de Dieu. De mon exister. Et alors il y aura le problème, ce que je vous avais souligné la dernière fois, en découvrant ma dépendance dans l'ordre de l'être, puisque je suis un être créé, je découvre en même temps que celui qui me crée me donne mon autonomie dans l'ordre de l'être. C'est pas contradictoire. Et c'est très important à comprendre, puisque c'est ça qui me permet de répondre à Feuerbach. Pour Feuerbach, il ne peut y avoir d'autonomie métaphysique qu'en niant Dieu. Et nous disons, nous, l'inverse. Cette autonomie métaphysique que je découvre dans ma personne, dans mon je suis, en découvrant ma substance profonde, mon âme, je découvre que si mon âme est limitée, dans son exister, si elle est créée, être créé ne veut pas dire être aliéné. Être créé veut dire qu'il y a une dépendance radicale dans l'ordre de l'être, dépendance que je n'expérimente pas. Je n'ai pas l'expérience de mon essai participé. Mais j'ai expérience de mon essai autonome. Et donc je découvre que cette dépendance dans l'ordre de l'être est source de mon autonomie. Ce qui est très étonnant, ça, et qui est très important à bien saisir. Vous voyez, c'est donc l'autonomie métaphysique s'enracine dans le point de vue de la découverte de ma substance qui subsiste par elle-même, qui existe par elle-même. Machiavel, ceci est juste. C'est du Machiavel, ça. Machiavel. Machiavel dit la finalité justifie les moyens. C'est ça la grande théorie politique de Machiavel. La finalité justifie les moyens. Et un moyen qui vous libère, très très bien, le tout c'est pas se faire prendre. C'est la douane. Vous faites pas prendre, ça va. Ne vous inquiétez pas, le résultat est bon. Ce que disaient ces médecins, j'aurais pas dit qu'ils étaient machiavéliques, mais ça arrive assez facilement. Quand ils disaient le point de vue de l'efficacité, ça réussit, donc c'est bon. Un brigand peut réussir, donc c'est bon. Oui. Alors il faut faire attention. La finalité ne justifie pas les moyens. Il faut comprendre que le point de vue volontaire et le point de vue moral regardent les moyens aussi. C'est la prudence. La prudence montre que les moyens que je choisis sont en naturalité avec la fin. Parce qu'autrement, c'est la fameuse question d'Hermède. Aujourd'hui, c'est Machiavélique constamment la médecine d'aujourd'hui. On prend des remèdes pour guérir telle chose, un mal de tête, et puis ça vous tue l'estomac. Ça vous tue votre pancréas. Alors les lendemains sont dangereux. Sur le moment c'est parfait, mais le lendemain sont dangereux. C'est constamment comme ça. Alors vous voyez, l'effet principal du médicament, c'est ça. Mais les effets secondaires, on les cache. Pour guérir, on tue. Alors, donc, ce petit raisonnement, la mort pour certains est une libération. Et vous voyez comment de la vie. Je disais, c'est intéressant à noter que lorsque le corps devient une pierre tombale, l'expression de Platon, lorsque le corps devient une pierre tombale, c'est-à-dire lorsque le corps m'empêche de penser, m'empêche d'aimer, m'empêche d'agir et m'oblige de rester sur un lit où je souffre, où je ne vois plus aucune possibilité d'atteindre ma fin humaine. À ce moment-là, on peut appeler la mort comme une libération. Et c'est vrai, c'est comme ça. Quand on voit des moribonds et qu'on voit un acharnement médical, thérapeutique, qui veut aller jusqu'au bout, on dit, mais pourquoi ça? Laissez-le mourir tranquille. Et on a le droit de mourir tranquille. On a le droit de demander à son médecin, ne m'envoyez pas nécessairement à l'hôpital, moi je veux mourir chez moi. C'est des questions qu'on vous pose. Plus d'une fois, on me les a posées, ces questions-là. Des gens qui vivent à la campagne, est-ce que j'ai le droit de dire à mon médecin, ne m'envoyez pas pour quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui se rend, je sais pas, à 45 ans ou 50 ans, qui aurait des charges très lourdes, pour une familiale, il faut tout faire pour le guérir. Mais quelqu'un qui arrive à 80, 90, est-ce qu'il n'a pas le droit de mourir de sa belle mort? Est-ce qu'on va me retirer ma mort en mettant entre ma mort et moi des tas de soi-disant manières de me sauver, de me charcuter indéfiniment? On enlève un bras, puis après on enlève une jambe, après on enlève une oreille, après on enlève... Est-ce que j'ai le droit de dire non, 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 c'est suffisant. Maintenant, et c'est vrai, c'est quand même avoir une finalité qui n'est pas de sauver, mais qui est de connaître. On aime bien de bons clients, robustes, qu'on peut charcuter. Alors, ça ne se dit pas, mais si on regarde bien, on a un peu l'impression que c'est pas toujours la bonne fin, la bonne finalité. Alors, la mort peut apparaître comme une libération, et peut-être une libération. Ça ne veut pas dire du tout que l'euthanasie est permise. Parce que quand je dis que la mort est une libération, c'est que je laisse le mal qui est en moi, je le laisse, il me conduira à la mort. C'est pas moi, c'est le mal qui est en moi. Tandis que l'euthanasie, c'est moi qui mets une fin à ma vie. Et donc je me considère comme maître de ma vie. Je considère que l'autonomie que j'ai est totale. Vous voyez, l'euthanasie, c'est ça. J'ai le droit à la vie, le droit à la mort. Ah non. Ma vie m'a été donnée gratuitement. Ma mort doit m'être donnée gratuitement. Je n'ai pas de droit sur mon être. Mon autonomie est limitée. Mon autonomie vitale est limitée. Elle n'est pas absolue. Donc vous voyez, comprenons bien, l'euthanasie est un crime. Non pas parce que l'euthanasie me libère du mal, mais l'euthanasie est un crime parce qu'elle implique que je suis. Je prends un droit que je n'ai pas, un droit sur moi, sur ma propre vie. Ne peut-on pas dire que chaque degré d'autonomie est comme une disposition pour un degré d'autonomie supérieur ? Oui. Ça c'est très joli, j'avais envie de parler de ça tout à l'heure. Voyez, y a-t-il un ordre dans cette diversité ? C'est toujours ce que se posait le philosophe. Je vois différents niveaux d'autonomie. Et c'est vrai, il y a des niveaux différents. Alors, y a-t-il un ordre ? Y a-t-il une hiérarchie dans ces diverses autonomies ? Ai-je le droit de me mutiler dans un ordre inférieur pour me libérer dans un ordre supérieur. Parce que les autonomies sont différentes. On va revenir là-dessus. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. Tu vois, si vous toujours se poser cette question-là, en philosophie, en sagesse philosophique, dès qu'il y a unité et diversité, il y a un ordre et il faut exprimer cet ordre, il faut le comprendre. C'est difficile d'être vertueux quand on est malade. Oui, et d'aimer spirituellement quand on n'est pas vertueux. Très juste. Et ça relève de l'expérience. Quand on est malade, on est grincheux. Hein? Dans la vie commune, ça se ressent tout de suite. On a la mine des fêtes, on est triste, on est cafardeux, ça ne va pas, rien ne va, on est de mauvaise humeur. Sauf si vous êtes très vertueux. Si tu restes là, vous voyez quelqu'un de vertueux. C'est que même s'il souffre, il sourit, il dit bonjour, il ne s'occupe pas de lui. Quand on souffre, on est enfermé sur soi. La souffrance nous enferme sur nous. Ça, c'est bien évident. Et donc, ça nous coupe de la finalité. Or, c'est la finalité qui nous permet le dépassement. Et c'est ça, être vertueux. C'est toujours se dépasser. C'est pour ça que la vertu est arrêtée en grec. Arrêtez. noblesse. C'est une noblesse, la vertu. Parce que ça nous permet de nous dépasser et d'aller plus loin. Voyez, la moralisation, c'est le repli sur soi. Voyez, et c'est de faire passer un certain formalisme devant la finalité. Mais la vertu, au contraire, nous finalise. Et dans ce sens-là, qu'elle est une noblesse et qu'elle est une dignité. L'être humain possède et acquiert sa dignité par les vertus. finalisé. Alors que le sentiment du moi n'est pas finalisé. Tout ce qui est finalisé garde une souplesse de vie. Parce que ça relativise les moyens. Tandis que le sentiment du moi ne relativise pas les moyens. Et c'est pour ça que si ça ne se réalise pas exactement comme on l'avait prévu, tout croule, l'univers croule. Je suis secoué parce que l'univers croule. Ça ne se réalise pas exactement comme je l'avais prévu. Ça aurait dû se réaliser comme ça. Donc le sentiment du moi n'est pas un absolu. C'est justement là la limite du point de vue psychologique. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'autonomie psychologique. Parce que la véritable autonomie repose toujours sur le « je suis ». Or, je vois que l'autonomie biologique implique la santé, donc un état de perfection. Il ne me manque rien. matière. Alors c'est l'idéal. Est-ce que l'idée de l'artiste lui donne une autonomie personnelle? Parce qu'il s'agit d'une autonomie personnelle que l'artiste, de temps en temps, plaide sa liberté d'artiste. Nous le verrons. C'est vrai. Mais je vous ai dit que la liberté n'était pas l'autonomie. T'es beaucoup plus proche du point de vue psychologique que l'autonomie. L'autonomie est quelque chose de bien plus fondamental. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'autonomie psychologique. Tandis que la liberté a une répercussion immédiate sur le point de vue psychologique. Ça, c'est sûr. Alors, je crois que l'artiste a une liberté d'artiste. Mais l'artiste n'a pas une nouvelle autonomie. Son autonomie repose sur le point de vue de l'intelligence, l'idéa. Mais l'idéa n'est pas source d'autonomie. L'idéa est source de détermination en vue de l'œuvre. C'est en vue de l'œuvre. Ce n'est pas du tout. L'idéa n'est pas du tout en vue de donner à l'artiste une liberté plus grande. Pas du tout. C'est pas ça qu'il regarde. Et l'idéa n'est pas du tout donnée pour l'artiste en vue d'une autonomie plus grande. Je crois pas. Mais on le verrait parfaitement que quand on verra justement cette recherche de la vérité. Donc, reprenons ce que nous disions hier entre l'autonomie de sagesse et l'autonomie métaphysique de l'âme, substance, donc qui subsiste. Et donc il y a ce catoto dans l'ordre de l'essai. Elle subsiste. Mettez ensuite, donc vous avez l'autonomie sagesse qui est au-dessus, l'autonomie métaphysique qui est radicale. Donc j'ai l'expérience dans le « je suis ». Pas les autres. Et le je suis exprime ce catoto. Vous avez l'autonomie qui repose sur la prudence, sur l'amitié. Mettez l'amitié tout de suite là. L'autonomie dans l'ordre de l'amitié. L'ami. Mais cette autonomie va dépendre de l'autonomie, de la prudence, des vertus. L'autonomie ensuite biologique. Alors devons-nous préciser que entre la prudence et l'amitié, il y aurait l'art. C'est une question qu'il faut se poser, c'est sûr. Est-ce que l'art est source pour moi d'autonomie? Vous voyez, les artistes aiment, ça fait partie du chic de l'artiste de montrer sa liberté. ça fait partie, ça. Je suis libre, moi, en tant qu'artiste. Je suis obtusant, je suis libre. Mais quand vous regardez sa vie concrète, l'artiste peut devenir un tyran pour son épouse. C'est pas drôle de vivre avec un artiste. Pour l'artiste, c'est très bien. C'est pas toujours commode, parce que tout est pour son œuvre. Le véritable artiste, tout est pour son œuvre. Il faut réaliser cette œuvre. Avant de mourir, je dois réaliser cette œuvre. Et l'œuvre compte partout. Alors, l'art est lié à l'œuvre. Et l'œuvre, au sens propre, fait finis effectus. Disent scolastique, c'est un effet et une fin. Et donc, ça repose sur une certaine autonomie de l'intelligence, comme la prudence. La prudence est la première autonomie qui repose sur l'intelligence. Il y a, d'une certaine manière, c'est pas un dépassement. Au sens strict, l'art devrait être entre l'autonomie biologique et l'autonomie prudentielle. L'autonomie prudentielle va plus loin que celle de l'artiste. Oui, parce qu'elle est plus immédiatement finalisée par rapport à l'homme, par rapport à la fin propre de l'homme. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine autonomie de l'art par le développement de l'intelligence. Vous voyez, c'est limité, mais ça existe quand même. L'artisan, le véritable artisan, utilise d'une manière tout le milieu vital dans lequel il se trouve et rend ce milieu vital habitable. On a tous vu ça quand on visite une petite maison d'artisan, on voit que c'est merveilleux, tout est fait pour un certain épanouissement de vie. Mais ça, c'est très très net qu'il y a utilisation, une sorte d'intelligence, de domination du milieu. Et le milieu est utilisé en vue d'un bien-être. Ça, c'est artisanal. Et alors, le bien-être, le bene vivere.
Et l'artisan cherchera ça tout de suite. Vous voyez,
dira les choses pour bien pénétrer. Alors, sous ce point de vue-là, on peut dire que l'intelligence artistique va permettre d'augmenter la liberté, l'autonomie biologique. Tandis que les beaux-arts, beaucoup moins. Vous voyez, c'est plus du côté de l'intelligence, non pas le bénévivéré biologique, mais vers avoir un volcan imaginatif très vite. On croit que c'est arrivé. Pas pour l'artiste qui est un grand artiste, il le sait très bien, lui. Vous voyez, quand Malraux dit que l'œuvre d'art est méta-destin, me libère du destin, c'est ça qu'il veut exprimer. Qu'il y a un milieu spirituel qu'on s'est créé et qui nous aide. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui permettrait le développement de l'amitié. Alors, on aurait des deux côtés. Au fond, l'art n'est pas directement source d'autonomie, mais peut l'être indirectement. Du côté du bénévivéré et du côté d'un certain climat, milieu. Vous voyez, l'art touche toujours beaucoup plus à la psychologie, parce que la finalité est moins directe, et c'est beaucoup plus les moyens et la transformation de la cause matérielle que l'art fait. Et comme c'est la cause matérielle, on rejoint là les dispositions. Alors on pourrait dire, si vous voulez, que l'art dispose à l'autonomie et permet un certain développement de l'autonomie, mais n'est pas directement source. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas directement source. Les sources vraies, c'est la biologie. Il y a une véritable autonomie, la santé. Le point de vue de la prudence, le point de vue de l'amitié, le point de vue de la substance, le point de vue de la sagesse. Je crois. Alors, autre question, tout de suite. Toutes ces autonomies sont limitées. Alors, en voyant les diverses autonomies, voyons les limites de ces autonomies. Ça fait partie de l'expérience du je suis. On a une autonomie comme personne, mais on s'aperçoit qu'elle est limitée. Et quand on supprime cette limite, ces limites, c'est parce que on imagine. Et donc c'est l'imagination qui l'emporte. Et l'imagination n'est pas source d'autonomie. L'imagination me fait croire. C'est un piège pour l'autonomie. Et c'est l'imagination qui veut supprimer. C'est là où l'art, quelquefois, peut jouer avec le point de vue de l'imagination. Alors, l'autonomie biologique, elle est limitée en ce sens qu'il y a une croissance. Il y a un état de santé parfait. Mais très vite, on découvre des lézardes. C'est sûr. Et il y a la croissance, et il y a la vieillesse. Donc, limite de l'autonomie biologique, la vieillesse. Je ne dis pas que la vieillesse est une finalité au point de vue biologique. C'est au contraire une descente. Les imperfections de la santé se font sentir. Et la maladie. Donc, il y a des limites. Je suis limité quant à mon autonomie biologique. Ça, c'est bien évident. Mais s'il ne faut pas ses limites l'emportent. Le jour où ses limites l'emportent, je vais vers la mort. Alors, qui est la mort? Qui est la suppression de mon autonomie biologique? Mais qui peut être une libération d'une autonomie spirituelle. Et en ce sens-là, l'autonomie biologique pour la personne humaine est relative à d'autres autonomies. Elle n'est pas absolue. Et quand je mets l'absolu dans l'autonomie biologique, c'est catastrophique. Je ne peux pas supporter la vieillesse. Je ne peux pas supporter la maladie. Mal. Et ça, c'est, on le voit très bien, cela. On a mis l'absolu dans l'autonomie biologique. L'autonomie prudentielle. Je laisse tomber artistique. On la reverra au terme. L'autonomie prudentielle, celle qui repose sur les vertus, est une autonomie acquise qui, d'une certaine manière, a quelque chose qui est limité uniquement par la finalité humaine, mais qui intrinsèquement n'a pas de limite. Je peux toujours être plus vertueux. Je peux toujours être plus prudent. Ce qui vient limiter mon autonomie prudentielle, ce sont mes passions, qui ne sont pas entièrement dominées. Les passions du concupiscible limitent terriblement mon autonomie prudentielle. Il y a le pot de confiture que je ne peux pas toujours emporter avec moi. Hein, symboliquement, le pot de confiture, venez, c'est les cendres d'Égypte, si vous aimez mieux. Les passions, le concupiscible est source de limites. Donc, ce concupiscible, je n'arrive pas à le dominer. Et donc, la jouissance que je peux découvrir dans le concupiscible est l'ennemi terrible de mon autonomie. L'irascible est lui aussi limite de mon autonomie prudentielle. La colère. Les colères qui me mettent dans un état de dépendance terrible. Et qui me rendent malheureux. Dans l'irascible, c'est que l'irascible se nourrit constamment de mes propres limites. Je suis furieux contre moi-même. Et être furieux contre soi-même, c'est pas être prudent. Puisque c'est se mettre dans un état de supprimer la possibilité d'en sortir. Limites qui sont les passions et qui me montrent bien combien les vertus me libèrent de cette dépendance passionnelle. m'individualise et me met en dépendance de tel milieu. Me met en dépendance de tel bien sensible. L'amitié, en soi, elle n'est pas limitée. L'autonomie que l'ami me donne, elle est spirituelle. Et d'une certaine manière, elle n'est pas limitée. Je peux toujours progresser dans l'ordre de l'amitié. Je peux toujours aller plus loin. Et l'ami, quand il est vraiment l'ami, augmente toujours en moi mon autonomie. Qu'est-ce qui vient limiter l'amitié ? C'est le manque de vertu du côté tempérance, du côté force et du côté prudentiel, c'est-à-dire l'imagination. Parce que l'imagination vient diminuer la prudence. Donc je suis toujours en état de conquête, conquérir le cœur de l'ami, non pas du tout pour moi, pour en jouir, mais pour l'aimer plus et découvrir davantage son autonomie, sa finalité propre. Et il me fera découvrir ma propre finalité. L'autonomie métaphysique de mon âme est limitée. Je suis, je ne touche pas mon essai participé. Donc, je ne peux pas la limiter de moi-même. Je la limite indirectement par les autres. L'autre. L'autre, comme dit Sartre, c'est l'enfer. Parce qu'il limite mon je suis. Oui, mais c'est indirect. Parce qu'au fond, je n'ai qu'à me contenter de mon je suis et pas m'occuper du je suis de l'autre. Ça ne me regarde pas, le je suis de l'autre. Oui, sauf si ronfle. Votre main, ça ne me regarde pas. Je le respecte. Il y a un respect du je suis de l'autre. Et donc, d'une certaine manière, cette autonomie métaphysique, je n'en saisirai la limite que dans la sagesse, en voyant que je suis créé. Réfléchissez bien sur votre je suis qui touche le je suis actuel. Il n'y a pas de limite. On existe en des choses absolues. Là, c'est très intéressant, tu vois, de voir que la seule autonomie qui me donne le sens de l'absolu, c'est cette autonomie métaphysique du je suis. Toutes les autres, alors celui-là, l'autonomie de l'amitié et de la prudence en elles-mêmes n'ont pas de limite. Je peux toujours être plus autonome. Mais aussi, d'une manière intérieure, que je ne suis pas assez vertueux, assez ami le don de moi-même, pour progresser tout le temps. Il suffit qu'il y ait des événements extérieurs qui sont trop lourds à porter, que je n'arrive pas à assimiler, alors qu'ils me font craquer. Donc j'ai le sens très fort des limites là. En dernier lieu, je vois la question de l'ordre. Je vois que l'autonomie biologique est ordonnée à l'autonomie prudentielle, à l'autonomie d'amitié, ça c'est sûr. dirai que j'ai deux ordres, deux manières d'ordonner mon autonomie. L'autonomie métaphysique qui assume l'autonomie biologique, qui l'assume, qui en a besoin mais qui l'assume. Et l'autonomie de la prudence et de l'amitié qui font émerger une autonomie spirituelle, morale et finale. Ils font émerger quelque chose qui touche le point de vue de l'intelligence et le point de vue volontaire. Et là, je ne peux pas dire que l'autonomie intellectuelle et que l'autonomie volontaire sont finalisées par l'autonomie métaphysique. Non. Donc je vois là que mon autonomie n'est pas simple, puisque elle est métaphysique, elle est prudentielle, elle est amicale. Donc il y a trois aspects qui resteront toujours. C'est curieux, c'est le triangle de base. Il y a un triangle de base en autonomie. Métaphysique, amitié, prudentielle. Qui montre bien que la personne humaine ne peut pas se définir par l'autonomie. C'est un élément essentiel